Donc, est-ce qu'on pourrait être un peu plus précis maintenant sur ces Seilleurs, puisque c'est le patronyme donc, de Seilleurs qui est porté par Ernest Antoine maintenant. Nous avons évoqué la Borde, maintenant évoquons peut-être les Seilleurs.
Justement, Nicolas et François-Alexandre, les principaux actionnaires de la Banque de France, avaient des capitaux dans la banque, mais aussi dans l'industrie et dans le négoce. Donc, ils avaient plusieurs cordes à leur arc.
Voilà, et c'était une ancienne famille aussi qui trempait dans le commerce, dans la finance, dans la banque.
Non, pas vraiment. Il y a un Antoine Seilleurs qui était proche dans les finances, proche du duc de Lorraine, enfin parce que la famille Seilleurs est Lorraine d'origine, comme la famille de Vindel, à laquelle elle s'est alliée, et comme la famille Schneider du Creusot.
Voilà, donc c'est une vieille famille locale qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard en Salme et dans la région de Sonone.
Tout à fait, oui.
Il faut dire qu'il y a deux branches Seilleurs. Il y a une branche aînée, une branche cadette. Ernest-Antoine Seilleurs lui-même appartient à l'une de ces branches-là, et c'est pas la branche la plus brillante. Et... quand on parle de deux frères Seilleurs qui se trouvent à la création de la Banque de France, ces Seilleurs-là ne sont pas ceux de la branche d'Ernest Antoine. Ceci dit, lui-même, par le biais d'un autre de ses ancêtres, Hector de Machy, dont on pourra dire tout à l'heure quelques mots, lui-même, donc Seilleurs, se trouve lié à la branche des Seilleurs la plus riche, parce que son ancêtre de Machy a été un des administrateurs, puis le patron de la banque Seilleurs.
Donc voilà, donc on retrouve déjà plusieurs noms, plusieurs patronymes. Donc on passe de la Borde au Machy, puis au Seilleurs. On a parlé également des deux Vindel. Alors, est-ce qu'on pourrait pas en dire un peu plus sur les deux Vindel?
Les deux Vindel, ils sont entrés en fait... par les capitaux dans la famille Seilleurs, puisque la banque Seilleurs a permis aux de Vindel de racheter les propriétés que cette famille de Vindel avait perdues au moment de la Révolution. Donc, par les capitaux Seilleurs, les de Vindel se sont réappropriés les forges de Mailleuvre, par exemple.
Les de Vindel eux-mêmes ont une histoire qui remonte plus haut encore, puisque pour eux... leur rôle dans ce qui allait devenir la sidérurgie, leur rôle commence...
en 1704, oui.
Voilà, donc par ce biais, à travers sa mère, Ernest-Antoine Seilleurs est relié à une histoire particulière parce que de travailler le métal, on pouvait obtenir la noblesse. Et dans ce cas, donc, les de Vindel eux-mêmes ont des titres de noblesse, de vrais titres de noblesse, ce qui ne les a pas empêchés de... savoir que leur richesse et leur réputation leur venaient d'une activité industrielle. Donc même s'ils avaient les titres, pour eux les titres n'étaient pas le résultat, par exemple, du fait d'avoir des ancêtres qui auraient participé aux croisades, c'était d'avoir travaillé le fer.
Voilà, donc là, on a en quelque sorte une carrière professionnelle et politique qui a été brossée pour quelques-uns des ancêtres principaux. Mais sur le plan moral ou sur le plan humain, comment se comportaient-ils ces ancêtres? On a vu que bon, de la Borde a trempé dans la traite des Noirs, par exemple, et est-ce que ça lui posait des problèmes moraux, soit avant, soit pendant, soit a posteriori? Est-ce qu'il y avait à ce niveau-là un ressenti du type de l'activité?
C'est très difficile de savoir ce qu'était l'attitude de ces gens, parce que quand on regarde les documents, il ne semble pas y avoir de questions particulières relativement à l'esclavage. Je crois que les choses sont allées très très loin sans que peut-être à cette époque on ait le souci de ce que ça pouvait donner. C'est-à-dire que la Révolution française a entraîné des révoltes dans l'île de Saint-Domingue en particulier. Alors, il faut situer l'île de Saint-Domingue par rapport à l'importance économique. C'était un trésor, l'île de Saint-Domingue. Donc, quand les mulâtres en particulier ont commencé à se révolter, quand les Noirs ont suivi, le problème s'est posé de savoir comment on allait en venir à bout. Et c'est Napoléon lui-même qui a organisé la répression. Et dans ce cas, on ne sait pas bien ce qu'a pu être l'attitude de la famille Laborde. Mais par exemple, dans les Alliés, on trouve le vicomte de Noailles, le même qui, dans la nuit du 4 août, a proposé que la noblesse renonce à ses privilèges. Il a bien expliqué que c'était la seule façon de calmer le jeu. On pouvait céder ça, parce qu'en ne le cédant pas, on risquait d'avoir à céder davantage. Noailles s'est retrouvé à devoir réprimer les révoltes à Saint-Domingue, et Rochambeau, qui a eu la tâche de réprimer dans le sang, a envoyé Noailles à Cuba récupérer des chiens qui étaient spécialisés dans le fait d'attaquer les Noirs. Alors, nulle part, on ne trouvera de regrets ni rien. C'est-à-dire qu'il semble que l'histoire, à cette époque, se fasse comme elle paraît dans la correspondance de Voltaire. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui n'en sont pas. Et Voltaire lui-même, quand il s'installe à Ferney, il fait construire une église, il fait venir des reliques, tout ce qu'il y a certainement de plus authentique. Il communie et il écrit à ses correspondants « Il faut bien que je procède ainsi, puisque je suis comme un bouvier au milieu de ces bœufs, et donc je fais ce qu'il convient de faire ». Et d'une façon générale, l'humanisme de Voltaire certainement reflète l'humanisme de personnages comme Laborde, c'est-à-dire qu'il y a des êtres humains et puis il y a ce qui est en dessous.
Oui, est-ce que vous pensez que ça a évolué sur le plan de la perception, justement, la perception des autres, sur le plan de l'exploitation, qu'elle soit morale ou qu'elle ne soit pas
Pour les grandes familles, il est très difficile de penser qu'il peut y avoir quelques scrupules. Par exemple, pour la famille de Vindel, le fait de faire actionner des forges, ça polluait les rivières. Et il y a eu, au moment de la Révolution, des cahiers de doléances qui ont été écrits et qui protestaient contre cette pollution des rivières. Et Madame de Vindel, dites Madame Dayan, je répondais, mais non, les forges ne peuvent pas polluer les rivières, l'eau est une eau ferrugineuse qui est bonne à la santé, d'ailleurs on peut la boire. Alors qu'en fait, les paysans se plaignaient de voir leur bétail mourir en buvant l'eau de ces rivières. Donc on ne peut pas penser qu'il y avait vraiment beaucoup de scrupules chez ces personnes qui allaient vers l'industrie à tout craint.
Et l'évolution, alors, est-ce que vous pensez qu'actuellement ça a beaucoup évolué à ce niveau-là?
Oui, ça a évolué de cette façon qui est manifeste chez les de Vindel et chez leurs alliés les Schneider. C'est qu'il a fallu tout de même se soucier de la question sociale. C'est-à-dire que le fait pour les populations ouvrières de se révolter, ça a conduit les dominants à essayer d'organiser le contrôle sur la question sociale d'une façon générale. Donc avec la hausse de la productivité du travail, avec le développement du capitalisme, on s'est rendu compte qu'il était d'intérêt du système de reverser une partie à travers ce qui peut apparaître d'abord comme des œuvres sociales, mais chez De Vindel et chez Schneider, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important, de bien plus calculé, tout simplement parce qu'ils étaient dans des industries où la concentration était très importante. Le rapport avec l'État leur permettait de vendre leurs armes, puisque souvent il s'agissait d'armements très chers, ou de se trouver devant des situations de guerre qui permettaient de faire payer assez cher ses services. Dans ce cas, par rapport à l'époque, on pouvait obtenir certaines retombées sur les populations qu'on dominait. Alors le contrôle se faisait par le fait de modèle Voltaire, un peu, de construire des églises, des écoles, des hôpitaux et tout ce qui s'ensuit, mais toujours en ayant une maîtrise aussi bien sur le coût de ces outils sociaux et puis une maîtrise sur les contenus, sur ce qui devait s'apprendre, sur ce qui ne pouvait pas s'apprendre. C'est en ce sens que la chose est devenue plus difficile à contester, parce que la tradition sur laquelle Seyer est à travers les deux Vindel, c'est que la hausse de la productivité du travail permet en quelque sorte de faire des miracles.
Et sur le plan politique, il n'y a pas eu des tentations à certains moments de se mêler directement, d'améliorer le sort de ces ouvriers en se présentant à une quelconque élection?
C'est le cas pour les De Vindel et pour les Schneider. Ils ont développé leur industrie et très vite ils sont entrés dans le monde politique. Mais quand ils faisaient du social, puisqu'on parlait du social, ils n'avaient rien inventé. Contrairement à ce qu'on nous laisse croire quelquefois à travers l'histoire officielle, les De Vindel ou les Schneider n'ont rien inventé en faisant construire des maisons, des écoles, des églises pour leurs ouvriers et leurs ouvrières, puisqu'en fait, ces gens-là allaient faire des stages dans l'Albion capitaliste et ils en revenaient avec des modèles de vie pour les ouvriers. Donc finalement, ils importaient pas seulement les techniques avancées de l'Angleterre, mais aussi le mode de vie des ouvriers.
Donc là aussi, ce qui montre bien que les frontières n'existaient pas non plus à cette époque-là pour parler du libéralisme de l'époque.
Non, l'Europe était déjà construite pour eux parce qu'en fait, beaucoup d'industriels français allaient en Angleterre, ils importaient des ouvriers en France. Ils importaient aussi des ingénieurs anglais, ils importaient des machines, c'est le cas pour le textile, ils importaient des machines textiles en France. Quelquefois même, quand c'était interdit par les lois françaises, ils importaient des machines en pièces détachées, donc par-dessous le manteau, et ils les remontaient en France.
Et sur le plan des méthodes de travail, est-ce qu'ils sont inspirés aussi de ce qui se passait en Angleterre?
C'était d'abord, il y avait le souci des techniques pour faire face à la concurrence anglaise. Et puis ensuite, bien sûr, il fallait amener les ouvriers à travailler sur ces machines. C'est pour cette raison qu'ils allaient faire des stages en Angleterre pour comprendre en quoi consistait le travail des ouvriers sur les nouvelles machines avec les nouvelles techniques.